Merci Anne Fauquemberg et bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes à Quimper, studio de France Bleu Breizhizel. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert.
Ah ouais, toi Yvon, t'as carrément sorti le ciré jaune. Et le bonnet. Et les bottes. Oh non, mais t'es paré. Moi, j'ai pris mes bottes, quoi. Oui, je suis prête, oui. Je suis contente d'aller en mer, oui. Oui. Ah, un message. La capitainerie. Bonjour. Étant donné les conditions météo et la tempête qui menace, les bateaux ne pourront pas sortir et vous devrez rester à quai. Cordialement. Bon, Yvon, je suis désolée, mais on va pas pouvoir sortir en mer. Donc, faut ranger ton ciré jaune. Ah, c'est dommage, hein? Oh, ça sera pour une prochaine fois. Moi, ça m'arrange, hein? Moi, le pied marin, moyen quand même, hein? Avis de tempête sur la pêche française, c'est pas nouveau, c'est devenu presque un poncif, tant on a l'impression que les pêcheurs vont toujours mal. Raréfaction du poisson, diktat de Bruxelles et concurrence mondiale. Mais le bulletin météo du jour mériterait quelques discernements. C'est comme le temps, c'est moins la tempête qu'on le dit, n'est-ce pas Olivier Lenezette ?
Tout à fait.
C'est vrai que ça souffle pas beaucoup aujourd'hui finalement, non. Qu'est-ce qu'on nous a dit ?
À terre, il fait toujours beau. En mer, il fait beaucoup moins beau.
Bon, vous venez ici, bonsoir, pour commencer. Vous venez ici en tant que président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne. Vous êtes président de Bluefish, association dite de promotion pour une pêche durable et responsable. Alors, on parlait de la météo. La condition des pêcheurs, c'est une succession de bourrasques et de ciel bleu. On a beaucoup parlé d'eux en 2008, année de grande mobilisation et manifestation contre les règles imposées à Bruxelles. Également pour protester contre les prix du carburant qui étaient très très hauts à l'époque. On n'en parle plus. Est-ce que c'est parce que ça va mieux, globalement ? On peut commencer par ça, ce qui va bien.
Aujourd'hui, on peut souligner une chose, c'est la baisse du carburant a fait que les entreprises aujourd'hui vont mieux. Cette baisse ne perdurera pas, on voit bien aujourd'hui le prix à la pompe d'ailleurs qui commence à augmenter. Donc je pense qu'il faut être prudent, mais il faut justement être force de proposition et anticiper pour pouvoir éviter justement de retomber dans les problématiques énergétiques et donc modifier, gérer la flottille qui permette de faire de la diminution de consommation de carburant.
Mais quand on lit les titres de la presse, et notamment régionale ces derniers temps, on lit aussi que c'est plus ou moins le retour de la sardine, par-ci, par-là, du bar, parfois. Voilà, on nous dit que le poisson revient. On nous dit que ça va un peu mieux.
Alors, le bar, on va éviter, parce qu'il y a des problématiques sur le bar aujourd'hui, en Manche, qui sont identifiées. Les professionnels se saisissent des problématiques aujourd'hui, c'est qu'il y a un fait nouveau, c'est qu'il y a un vrai partenariat scientifique-pêcheur en termes de suivi de la ressource, et je pense que cela, c'est important pour pouvoir justement continuer à avoir une des espèces abondantes en Bretagne, mais surtout dans les eaux communautaires.
Voilà, les pêcheurs disent ramener plus de poissons qu'avant dans leur chalut ou leur filet, par endroit, mais c'est peut-être parce qu'ils sont de moins en moins nombreux à se partager la mer. Gilles Cardoncuf, on s'est mis à l'abri du vent dans votre bateau. Bateau que vous avez vous-même mis à l'abri de la tempête, parce que ça va souffler là.
Oui, effectivement. Habituellement, il est basé à Tréboul, donc, parce que pour de ramener en fait à trois ports, hein, le port de pêche, Rosemeur, le port de plaisance de Tréboul Et puis le Port-U, donc bassin à flot, donc protégé par une porte. Et donc là, il y a du mauvais temps qui s'annonce. Et on met souvent à ce moment-là les bateaux à l'abri.
Donc Port-U, aujourd'hui port de plaisance, et vous y êtes à votre place, Gilles Cardon-Cuve, puisqu'aujourd'hui votre bateau est un bateau destiné voilà, au tourisme. C'est une, comment on dit, une vedette touristique.
Oui, effectivement, bah, c'est un bateau de 10 mètres. C'est une, on va dire, une jolie vedette qui me sert donc à faire connaître un peu la baie d'Ornenay, puis les environs. Aux gens de passage, et puis sur lequel j'organise aussi des parties de pêche.
Bon, c'est un format que vous connaissez bien, une petite dizaine de mètres, parce que c'est, je crois, la taille que mesurait votre bateau de pêche, l'Albatros, quand vous étiez pêcheur.
Ah oui, 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 en termes de taille, ça n'a pas changé. Après, en termes de bateau, évidemment, ça n'a rien à voir. Hein. Celui-ci fait 5 tonnes. Mon bateau de pêche, moi, pour la même taille, il en faisait 15. Quoi.
Alors, pêcheur, un métier que vous avez choisi tardivement et que vous aurez quitté précocement.
Alors, juste avant d'être pêcheur, je travaillais dans. J'étais responsable de production dans l'agroalimentaire, dans une conserverie, donc pas loin d'ici. Et puis. Bon, on s'est quitté avec l'usine connétable et donc j'avais à peu près 40 ans et j'ai toujours été un petit peu attiré par la mer et puis je me suis dit bah, après tout pourquoi pas me lancer. Donc je suis allé à l'école de pêche de Dornenay, j'ai passé ce qu'on appelle mon capacitaire, donc qui était mon brevet de commandement pour pouvoir avoir un bateau de pêche. J'ai fait matelot pendant un an sur un bateau. Et puis j'ai acheté Albatros et puis je me suis lancé avec un matelot, Alain à l'époque.
Donc début de votre activité 2004, est-ce que ça marche bien au départ?
Alors à l'époque ça fonctionnait encore bien. J'ai connu la fin de la période faste de la petite pêche dans le secteur ici. On était encore 90 bateaux quand même à vivre tout l'hiver dans la rade de Brest. Maintenant je crois qu'ils sont... 640, c'est le bout du monde. Hein. J'ai souvent cet exemple-là. Quand j'ai démarré, on était 13 bateaux de pêche au port du Tinduf l'hiver. Cette année, il en reste un. Voilà, il prend sa retraite l'année prochaine.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui aura eu raison de votre activité?
Alors, la raréfaction de la ressource, donc ça, c'est là. Pas la conséquence, on va dire. Maintenant, les causes de cette raréfaction, il y en a certainement plusieurs. Ça peut être le réchauffement climatique, ça peut être aussi, je vous dis, des pêcheries plus performantes et qui ont fait que, pour la petite pêche et puis les petits armateurs, il n'y a plus de place. La meilleure saison de bar que j'ai fait, ça a été la première. J'y connaissais rien du tout et on gagnait correctement notre vie. En une journée, on faisait 40-50 kilos de barres pour une personne seule à la palangue. Bon, ça, c'était tout à fait convenable. Là, malheureusement, l'été dernier, j'ai des collègues là qui, pour le coup, qui sont vraiment les derniers des Mohicans qui revenaient avec 4 ou 5 barres dans leur journée. Donc, c'est pas viable.
Mais très souvent, on entend les pêcheurs accuser les quotas et les restrictions. Vous parlez vraiment de raréfaction des poissons.
Ah oui, oui, c'est net, au moins pour ces espèces-là que moi je pêchais, c'est-à-dire le bar et puis la dorade grise. Il y a une... Mais en même temps, c'est pas... Enfin, je veux dire, le phénomène, on le voit quand même arriver depuis au moins 10 ans. Hein. Tous les ligneurs du secteur alarment les autorités en leur disant bah, « il y a un problème sur le bar, il y a un problème sur... c'est pas possible ». On voyait quand même tous les ans que ça diminuait. Donc c'est pas complètement une surprise pour nous. Même si, j'irais la vitesse quand même de diminution de la ressource, là, est quand même impressionnante. Après, je vous dis, l'évolution a fait que, bah si, j'aurais peut-être pu trouver un embarquement sur un sardinier. Ça, c'était encore une possibilité. Bon, j'ai pas fait ce choix.
Pourquoi? Ça vous intéressait pas?
Moins que la pêche côtière, c'est vrai. Et puis en même temps, donc l'activité là que j'ai démarré... Je trouvais ça assez intéressant parce que, bon, arrivé à un certain âge, c'était aussi un moyen de partager un petit peu avec les gens qui venaient à bord tout ce que je pouvais un petit peu raconter sur la pêche qu'il y a eu ici et puis sur ce milieu que je commence à connaître un petit peu.
Donc aujourd'hui, avec votre bateau, quand avec des touristes vous croisez des fileyeurs, des chalutiers, des bateaux, vous pouvez évoquer le métier de pêcheur. Je veux dire, ça fait partie de la visite.
Bah, c'est vrai que les gens sont intéressés. Quand je leur montre les bateaux qu'il y a, bah, je dis voilà, ça c'est un chalutier, il part 10 jours. Vous voyez les panneaux de chalut, vous voyez les chaluts. Ça c'est un sardinier, alors avec son filet tournant, enfin ou un caseilleur. Donc effectivement, ça intéresse les gens qui viennent en balade.
Et quand vous passez devant eux, ça vous fait... Enfin, est-ce que vous avez un petit pincement au cœur? Vous auriez aimé persister dans ce métier?
Oui. Bah, c'était un métier... Enfin, les métiers de la pêche sont des métiers quand même passionnants. Avant, j'ai fait 15 ans d'agroalimentaire, donc je fais la différence. Hein. C'est vrai que lorsqu'on est en pleine mer... On a des journées extraordinaires, c'est pas toujours simple, mais quand il fait beau, quand ça pêche, on passe une bonne journée. Quoi. C'est un métier quand même très très intéressant.
Témoignage de Gilles Cardon-Cuff, la raréfaction du poisson qui fait qu'il abandonne. Il s'achète une vedette pour emmener les touristes regarder les pêcheurs qu'il connaît bien. Alors la petite pêche, la pêche côtière, Olivier Lenezette, c'est du domaine de l'exposition musée. Ce sera bientôt du domaine du musée. Est-ce que les petits bateaux de pêche aux couleurs vieillottes qu'on aime regarder dans les ports, on en parlera bientôt comme on parle des vieux gréements?
Non. Non, pour une raison d'abord assez simple, c'est que la France a quand même une culture de la pêche, entre la Bretagne. C'est pas pour rien que justement la Bretagne, c'est terre et mer de Bretagne, avec d'ailleurs le bleu, le vert, mais aussi le gris pour la matière grise, parce que les Bretons ont toujours su pouvoir innover et avancer, surtout s'adapter en fonction de l'évolution, diverses et variées, qu'elles soient réglementaires ou autres. Ou sur la ressource. Donc c'est vrai que ce sera plus comme avant, parce qu'on entend souvent les anciens, oui, avant, mais aujourd'hui, c'est complètement différent, et je crois qu'il faut justement se tourner vers l'avenir, et l'avenir, je vois aujourd'hui, même si il reste encore des difficultés sur certains secteurs ou segments de flotte, on voit aujourd'hui beaucoup, beaucoup de projets de demande de bateaux neufs, donc avec des jeunes derrière, donc ça c'est important.
Des bateaux neufs. Est-ce qu'on a une idée de ceux qui, chaque année, laissent tomber leurs bottes et leurs filets, de ceux qui, comme Gilles Cardon-Cuff, laissent tomber la pêche, abandonnent?
Pour déjà revenir sur ce sujet, je pense qu'il est important de rappeler que, certes, dans les années 60, 70, 80, ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, il y a eu, je dirais, avec l'accord de l'État et des scientifiques de l'époque d'ailleurs, qui, pour eux, la ressource était inépuisable. Erreur monumentale, on a bien vu, dans les années 90-2000, on a vu les crises de la pêche, hein, suite aux problématiques d'importation, mais aussi au prix du carburant qui avait explosé, que malheureusement, les ressources n'étaient pas inépuisables et qu'on ne s'était pas préparé à la mondialisation du marché et de la ressource.
Dans les années 90, on prélevait 40 à 45% de la biomasse de chaque espèce, c'était à peu près deux fois trop.
Tout à fait, c'est pour ça qu'il a fallu, et d'ailleurs, si aujourd'hui il y a moins de navires dans les ports, il a fallu adapter la flotte en fonction de la capacité de la ressource. Et donc on a cassé à peu près 40 à 50% de la flotte bretonne dans les 20 dernières années, pour justement la mettre en adéquation avec la ressource. À aujourd'hui, ce que l'on peut dire, et c'est des chiffres importants à rappeler, c'est que sur les espèces soumises à quota, parce que toutes ne le sont pas sous quota, et entre autres le bar d'ailleurs, que ça fait 10 ans qu'on le demande, et donc à aujourd'hui, on voit qu'on est passé de 7% des stocks exploités au rendement maximum durable. Alors c'est un gros mot, mais je vais vous le dire différemment. En banquier, c'est que vous allez exploiter les intérêts, vous ne pêchez pas le capital. En 2007, à 7%, nous sommes passés après à plus de 60% en 2017. Donc là, je peux dire que heureusement, et j'en suis très heureux, c'est qu'aujourd'hui, les efforts accomplis par les professionnels Et les règles qui ont été mises en place ont permis et permettent aujourd'hui de voir de la ressource dans nos eaux du littoral et dans les eaux communautaires. Mais il y a d'autres problèmes qui viennent s'ajouter à ça.
Vous dites que le bar n'est pas soumis à quota.
Le bar n'est pas une espèce soumise à quota. Il est, c'est une espèce qui est gérée par un plafond de capture. Cela fait 10 ans que les professionnels et la filière demandent à ce que le bar soit mis sous quota. Mais il y a un refus. Des autres États membres parce que sur les, je dirais avant qu'il y ait les mesures d'urgence qui soient mises en place, sur les à peu près les 5500 tonnes hein, de bar pêchées en Europe, il y en a à peu près 30% par la pêche de loisirs parce que au Royaume-Uni, seule la pêche de loisirs a le droit de pêcher le bar. Et sur ces 70% restants, 90% sont pêchés par les navires français. Et donc les autres États membres ne souhaitent pas que la France ait l'exclusivité de ce stock.
Mais alors les pêcheurs demandent des quotas, dites-vous, pour le bar, alors qu'on a quand même longtemps entendu qu'au contraire, les quotas étaient une vraie contrainte pour eux dans l'exercice de leur métier.
C'est une contrainte, mais au-delà d'avoir une contrainte, à partir du moment où on identifie qu'il y a une problématique sur un stock, qu'il soit sous quota ou pas, parce que ça n'a pas empêché la France de mettre en place, et les professionnels, via le Comité national des pêches en France, de mettre en place une licence. Une licence qui fait qu'on puisse encadrer, réguler cette exploitation de ressources par tous les métiers, quels qu'ils soient, qui pêchent le bar. Donc, à aujourd'hui, cette licence permet de pouvoir encadrer cette espèce, au-delà des règles communautaires, c'est-à-dire que ce sont les professionnels qui ont anticipé, je dirais, les mesures européennes avant même que l'Europe s'aperçoive qu'il y a un problème sur le stock.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des espèces qui étaient en surpêche et que vous avez vu réapparaître après de nombreuses années, justement, d'installation de ces quotas?
Oui, il y a quelques espèces emblématiques. On prend, par exemple, le thon rouge. Le thon rouge, aujourd'hui, était d'ailleurs surpêché en Méditerranée, c'est un fait. Il y a eu les efforts accomplis par les professionnels et on voit aujourd'hui qu'il y a la ressource s'est reconstituée très rapidement. Et ça devient même quand il y a une... Parce que la surpêche, c'est un problème, mais la sous-pêche est un problème aussi parce que ça peut déstabiliser tous les autres stocks. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une quantité importante de thon rouge dans le golfe de Gascogne qui pose problème avec le thon germont, qu'on appelle que les gens achètent régulièrement au printemps-été, enfin surtout fin de l'été. Et il y a d'autres espèces comme on voit, alors c'est plus cyclique, mais la civelle qui posait souvent des problèmes. Là, on voit la civelle réapparaître parce que les professionnels ont mis en place des programmes de repeuplement sur toutes les rivières d'Europe. C'est important de le souligner, c'est-à-dire que c'est la France qui fait l'effort. Et à côté, nous avons une autre espèce comme la langoustine ou le merlu, emblématique, parce que le merlu a été, il y a eu des problèmes, mais aujourd'hui, le merlu est au rendement maximum durable aussi.
La langouste verte aussi, qui se vend, je crois, après, je connais pas les cours actuels, non?
C'est pas du tout. C'est pas la langouste verte, c'est plutôt la langouste royale ou impériale, celle qui est sur nos côtes, qui a aujourd'hui, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a eu un programme mis en place par les professionnels, avant même la création du parc marin d'Iroise, où nous avions, les pêcheurs ont mis des zones, ce qu'on appelle des zones de cantonnement, ou des zones d'interdiction de pêche de langoustes, et qui aujourd'hui ont les fruits de leurs efforts, payent parce qu'on retrouve de la langouste tout le long du littoral du golfe de Gascogne.
Paye, c'est le cas de le dire, parce que c'est quand même un crustacé qui se vend assez cher.
Tout à fait.
Donc les pêcheurs ont compris qu'il était aussi dans leur intérêt que cette ressource soit préservée. C'est quelque chose qui est entendu vraiment maintenant, et peut-être d'autant plus par les nouvelles générations.
Oui, de toute manière, le pêcheur a compris que, il doit valoriser son produit. Donc c'est un produit de qualité, on est là d'abord et avant tout, il ne faut pas oublier que la pêche, on est là pour nourrir les gens, même titre que le fait l'agriculture dans son domaine. Donc il ne faut pas oublier que la mer produit des protéines pour nourrir les gens, et on voit bien en plus la population qui augmente, donc qui fait qu'aujourd'hui il faut encadrer, réguler, il faut valoriser le produit, et surtout je dirais même que demain, les pêcheurs ne sont peut-être pas que pêcheurs, ils sont peut-être aussi élaborateurs de leurs produits, comme certains d'ailleurs que je connais, chef d'entreprise, parce qu'un pêcheur c'est un chef d'entreprise, aujourd'hui transforme leurs produits, ou une partie, en pots de rillettes, des rillettes de maquereaux, de thon ou autre, et je pense que toutes ces évolutions, et les nouvelles générations à venir, feront que on aura des perspectives de développement dans la filière.
ce lac, ça va être un peu plus sportif. Et je peux vous aider.
On y arrive.
Pour accéder à votre bateau, Vincent, il faut passer par deux autres bateaux voisins.
Oui, comme on est assez nombreux dans le port, on essaie de s'arranger pour se mettre à couple les uns des autres.
Vous êtes combien de bateaux?
Dans la baie, on est 240 bateaux à faire la coquille Saint-Jacques. Et dans le port, je ne sais pas combien on est, mais plus de 100.
Est-ce que je peux vous demander de me tenir la main? Parce que hop, sinon, je vais faire un gros plouf.
Voilà, donc ça, c'est notre outil de travail.
Le voilà.
Donc avec l'hiver, on travaille essentiellement avec ça, deux dragues. Donc ça sert à pêcher la coquille Saint-Jacques.
Comment on peut décrire votre bateau? Donc un bateau de taille moyenne.
C'est un chalutier coquillier polyvalent de 10 mètres sur 4 mètres de large. Et qui est essentiellement fait pour faire de la coquille, du chalut et autrement du filet.
Est-ce que vous êtes sorti ce matin, Vincent Cadran?
Ah, ce matin, non. Parce qu'il y a des jours de pêche bien définis. En ce moment, on a deux jours de pêche par semaine, 45 minutes par jour. Et les jours, c'est le lundi et le mercredi.
Vous pêchez jusqu'à quelle quantité, là, avec votre chalutier?
Ça dépend. En gros, en moyenne, on pêche dans les 600 kilos. Mais on peut faire des mauvaises journées. Si on a un ennui, on va tomber à 350 ou 400 kilos. Comme on peut faire des très bonnes journées et on va monter à 1 tonne 100 ou 1 tonne. Voilà, en 45 minutes. Donc c'est assez sportif, quand même.
45 minutes, alors vous êtes chronométré.
Oui, bah, ça fait 25 ans que c'est comme ça. C'est la profession qui a organisé et réglementé cette pêche-là pour que la ressource se maintienne. On fait une évaluation des stocks en début de saison par l'Ifremer. Et de là, après, on fixe un nombre de jours à faire dans l'hiver et un volume horaire. Donc il y a un avion, un Zodiac, un hélicoptère des fois et plusieurs vedettes qui nous surveillent.
Vous êtes combien sur votre bateau, l'Hyperbole, quand vous êtes en pêche?
Alors, en pêche, sur ce gisement-ci, en baie de Saint-Brieuc, on est deux. On est deux, moi je suis à la barre, et puis le matelot s'occupe essentiellement des dragues et du triage.
Ça y est, Vincent Cadran, vous avez le pied marin?
J'espère.
Vous êtes venu à la pêche, en tout cas vous êtes devenu vous-même pêcheur, et vous avez acheté votre bateau, l'Hyperbole. Il y a quoi? Il y a deux ans en fait? Deux, trois ans?
Ça fait deux ans et demi que j'ai acheté le bateau, mais c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle. J'étais fonctionnaire territorial en tant que directeur financier, puis directeur général adjoint, après avoir fait une fac d'économie et un DESS en analyse financière. Donc c'était pas la voie pour être pêcheur. Maintenant, en parallèle des études, et puis depuis que j'étais petit, j'ai toujours été en mer. Et puis au bout de 10 ans, je me suis dit, tiens, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à apprendre et à apporter. Et du coup, je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc c'est là que je me suis lancé et que l'aventure est partie.
Donc le directeur financier de la ville de Morlaix, on peut le dire, que vous étiez, est devenu pêcheur.
Oui.
Qu'est-ce que vous a dit votre père à l'époque, lui qui a connu les années fastes? Aujourd'hui, la pêche, c'est plus ce que c'était. Peut-être qu'en choisissant l'administration, vous aviez choisi quelque chose de beaucoup plus stable, en fait.
Oui, c'est sûr. C'est sûr que pour mon père ou pour ma mère, pour eux, j'avais fait une progression sociale, j'avais une sécurité d'emploi, j'avais un bon salaire, un développement de carrière assuré. Et puis, le changement était difficile. Mon père comprenait parce qu'il savait que j'aimais ça, mais d'un autre côté, il était partagé parce qu'il connaît aussi les difficultés du métier, l'exigence, l'investissement qu'il y a à réaliser, les aléas, le salaire va pas forcément être le même tous les mois. Il y a des mois, il n'y en aura peut-être pas. Donc c'est vrai que ça lui faisait un peu peur. Une fois qu'il a quand même admis ça, il a trouvé du plaisir, je pense, à me transmettre le métier. Et c'est vrai qu'on a fait la première année ensemble, donc sur le bateau, avec mon père et mon oncle aussi qui est revenu. Et ce qui fait que j'ai bénéficié de leur expérience, de leur connaissance. Et ça vaut de l'or, quoi. Quand on démarre, c'est vrai que pour un jeune qui n'a pas été formé, qui n'a pas été matelot, pour reprendre comme j'ai fait, si je n'avais pas eu leur aide, ça aurait été très difficile, quoi.
Vous avez senti votre père ou votre grand-père ému de cette transmission?
Je ne sais pas si je l'ai senti ému parce que en Bretagne, comme beaucoup de Bretons, on ne dit pas beaucoup les choses, donc les choses ne sont pas dites, mais bon, sans les dire, on les sent quand même. Et puis, c'est vrai que vu les efforts qu'il a fait, lui et mon oncle, pour me faciliter l'installation, oui, je pense que ça les a touchés à un moment donné. il a fallu qu'ils se relèvent la nuit à 2-3 heures du matin, qu'ils reviennent en mer alors qu'ils s'étaient habitués à la retraite. Et donc ça a forcément été difficile pour lui, quoi.
Ce bateau, l'Hyperbole, vous l'avez acheté où ? Il n'est pas neuf, a priori ?
Non, je l'ai acheté ici, en Baie-de-Saint-Brieuc. Je le connaissais depuis que j'étais petit, hein, parce que ces bateaux-là ne sont pas récents. Hein. Il a 30 ans, maintenant il est en bon état. Il a été intégralement refait en 2011. Donc voilà, c'est un bon outil de travail.
On a l'impression de toute façon qu'ici, dans le port de Saint-Quay-Portrieux, les bateaux ont tous un certain âge. Il y a presque un charme un peu désuet à ces bateaux amarrés sur le ponton.
C'est vrai que la moyenne d'âge des bateaux côtiers en France est très âgée et que maintenant, un bateau de 30 ans à la pêche, c'est presque un bateau qui est jeune. Puisque c'est le résultat des mesures de la Commission européenne et de la gestion de la politique des pêches françaises. La pêche côtière a de telles difficultés qu'il est très difficile de faire un bateau neuf. Il n'y a d'ailleurs pas de subvention pour faire un bateau neuf, donc ce qui fait qu'il y en a eu très peu de construits. Un bateau neuf de cette taille-là, c'est allez, minimum 600 000 euros.
Et voilà. Celui-là, vous l'avez payé combien ?
Celui-là, il m'en revient à 140 000 euros. Voilà, donc 140 000 euros, on peut le rentabiliser. 600 000 euros, ça commence à être très difficile. Ou alors, il faut travailler jour et nuit.
En tout cas, vous avez l'air très ouvert, d'être très ouvert et très compréhensif vis-à-vis de toutes les normes qui ont été édictées ces dernières années. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas vu le changement, vous, par ailleurs.
Non, je l'ai vu chez mon père. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de réglementations, de contraintes. Après, là, je parais peut-être compréhensif, mais il y a des moments où je le suis moins. Moi, ce que j'observe, c'est que ce qui a été mis en place par la profession, donc toutes les licences, ça marche très bien. Donc, par les comités départementaux ou régionaux, ça marche très bien, ce qui a été fait par les pêcheurs eux-mêmes. Par contre, beaucoup de décisions qui sont prises par la Commission européenne et par Bruxelles de très loin ne marchent pas en pêche côtière, sont au quotidien très contraignantes et l'effet pervers, les effets pervers sont beaucoup plus grands que la mesure. Et je pense que, pour dire les choses comme je le pense, la pêche côtière, que ce soit en France ou ailleurs, elle a été sacrifiée par l'Union européenne au profit d'une pêche industrielle qui sait faire du lobbying. Et aujourd'hui, la Commission européenne est gouvernée par des lobbies. Du coup, toutes les mesures qui sont prises, des fois même sous couvert de protection de la ressource ou de la nature, en fait, sont prises pour des industriels et par des industriels.
Arrière tout.
Sur la route, France Culture, avec Julie Gacon.
Sur la route des pêcheurs et de la reconversion maritime, nous sommes dans les studios de France Bleu Brézizel à Quimper avec notre invité Olivier Lenezette, président du comité régional des pêches. Alors vous avez entendu, Olivier Lenezette, ce constat très dur de Vincent Cadran qui dit que les décisions prises à Bruxelles sont faites par et pour les industriels. Or c'est vous qui êtes entre autres chargé de négocier à Bruxelles pour ces pêcheurs bretons. Alors cette petite pêche, la pêche côtière, est-ce qu'elle va, comme dans l'agriculture, finir par se faire manger par la grosse pêche industrielle?
Ça peut être une crainte, mais justement, le comité régional des pêches est là justement pour éviter ce genre d'appropriation de l'océan par quelques navires. Ce n'est pas non plus la politique à aujourd'hui des élus en France.
C'est-à-dire, vous faites comment pour empêcher ça alors?
Il y a justement dans la bande des 12 000, globalement, le comité régional gère la bande des 12 000 avec le préfet de région où nous mettons en place des licences qui permettent
justement... Qu'est-ce que c'est la bande des 12
000 ? La bande des 12 000, c'est nos eaux territoriales françaises qui nous appartiennent. Et après, on a une extension jusqu'aux 200 000, qui est la zone économique exclusive. Dans la bande des 12 000, c'est une gestion qui est faite par le comité des pêches de Bretagne en lien avec le préfet de région, qui permet de mettre en place des outils et dont a parlé d'ailleurs ce chef d'entreprise et ce marin sur les licences, qui permettent aujourd'hui que nous gardons la main sur la mise en place des mesures d'encadrement ou d'exploitation des ressources pour les espèces qui ne sont pas soumises à quota. Pour le reste, Il est vrai que souvent, malheureusement, je comprends, moi aussi ancien marin quand même pendant 24 ans, que la politique communautaire est très loin de la réalité des professionnels qui sont tous les jours allés en mer sur le terrain. Malheureusement, cette politique, elle est trop globale. À nous de faire justement pour que cette politique soit plus régionalisée. C'est ce que a d'ailleurs compris l'Europe aujourd'hui et qui délègue beaucoup pour avoir une politique régionale. Maintenant, c'est toujours très compliqué parce qu'on ne peut pas faire une politique individuelle. Je rajoutais juste un point qui est important. Quand on parle de petite pêche ou de pêche côtière ou de pêche au large ou de grande pêche, il n'y a pas d'opposabilité à voir parce que ces navires ne travaillent pas dans les mêmes zones de pêche. Ils ne travaillent pas non plus avec, sur les mêmes espèces globalement. Et il y a plutôt de la complémentarité. Il ne faut pas opposer les métiers les uns aux autres ou les types de métiers. Parce que ce qui fait la force de la pêche bretonne aujourd'hui, c'est cette diversité qui fait aussi sa faiblesse parce que justement, quand il y a un problème sur une espèce ou sur un secteur, on cherche toujours un coupable. Les coupables, c'est nous-mêmes, c'est les professionnels, c'est la filière. C'est à nous de trouver des solutions qui ne sont pas évidentes, évidemment. Maintenant, sur la pêche hauturière, on voit aujourd'hui que s'il n'y avait pas de pêche hauturière, il n'y aura pas non plus de crier. Pêche en haute mer, enfin haute mer, pêche hauturière, c'est-à-dire que des navires qui partent pour 8-10 jours, on a vu, aujourd'hui, il en reste très très peu dans nos ports bretons. Ce qui d'ailleurs peut poser problème à l'avenir sur nos criers. Parce qu'il faut du volume aussi, il faut des petites quantités qui soient valorisées par la petite pêche ou la pêche côtière, mais il faut aussi du volume qui permette justement de valoriser et d'amener des acheteurs.
Qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui, les jeunes qui sont en formation pour apprendre le métier de marin-pêcheur, je crois qu'ils sont quand même nombreux dans les établissements qui dispensent cette formation, qu'est-ce qui les intéresse a priori? C'est quel genre de pêche? Est-ce que de toute façon ils sont assurés de trouver un emploi sur ces gros bateaux de pêche où tout est fait, oui, de manière industrielle, ou est-ce qu'en général la pêche plus familiale les intéresse davantage?
Alors, en Bretagne, nous avons 4 lycées bretons. Saint-Malo, Paimpol, le Guilvinec et le lycée d'Étel. Ça, c'est la formation initiale. C'est-à-dire, là, on forme les jeunes pour rentrer dans le métier. Et nous avons le Centre européen de formation continue maritime qui est basé à Concarneau et à Lorient, qui est là pour la formation continue. Ces formations sont importantes. Il faut d'ailleurs que la région intensifie ses efforts pour plus de donner de moyens qui soient financiers. Parce que, il faut quand même savoir que la pêche, c'est le seul métier qui existe où les formations sont longues, coûteuses et obligatoires. Derrière, un marin doit sortir avec un brevet et il doit le valider.
Pourquoi c'est le seul métier qui existe?
Parce que en mer, vous avez des responsabilités que vous n'avez pas à terre et que quand vous êtes seul à bord de votre navire, à la barre de votre navire, vous avez quand même une compétence qui n'est pas neutre, une responsabilité envers vos marins et en mer. Sachant que l'État délègue même ce qu'on appelle des compétences où aujourd'hui ils ont des compétences étatiques. Donc, en termes de responsabilité à bord de leur navire. Donc, la formation aujourd'hui, il faut savoir que les lycées maritimes sont pleins. Et c'est très bien, plein avec quel marin à venir sur les quais. Souvent, les marins décrivent qu'il ne va pas de jeunes à venir dans le métier. Il faut savoir, beaucoup de marins ou de jeunes viennent au départ à la pêche et valident leur brevet pour aller après sous d'autres cieux, c'est-à-dire à la marine marchande, au pétrole ou ailleurs. Le vrai problème aujourd'hui de la filière, c'est un problème d'attractivité, de communication positive. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, ce métier est économiquement rentable. Les marins gagnent très bien leur vie.
Parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, justement. Alors les salaires sont plus hauts, on les partage en moins d'unités.
Je dirais que non, c'est d'abord et avant tout parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a su valoriser les produits. Et c'est ce qui a permis. C'est pas qu'il y ait moins de marins ou qu'il y ait moins de ressources, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la ressource est présente, elle revient, même s'il reste encore des efforts. On a perdu 40% de la flotte, c'est vrai. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les professionnels tels qu'ils sont et la flotte telle qu'elle est en Bretagne permet aux marins, aux matelots ou aux mécanos ou aux patrons d'avoir un métier où on gagne très bien sa vie. Donc, il y a des problèmes, comme dans n'importe quel métier à terre. Maintenant, je crois que la filière peut dire aujourd'hui qu'elle est durable en termes d'exploitation de ressources et elle est durable aussi économiquement.
Il y aura assez. Attention à vous.
Alors, qu'est-ce que vous mettez en carton là aujourd'hui, Scarlett Le Cor?
Je viens de finir de charger. Je suis en train de maintenant de m'occuper des algues. Donc là, c'est les algues sèches que je prépare pour le salon. Parce que je vais sur un salon à Clermont-Ferrand. Donc c'est un salon des vins et terroirs et produits du terroir. Et donc je vais à la rencontre de mes clients de la région de Clermont-Ferrand, quoi, tout simplement du Puy-de-Dôme.
Les Auvergnats aiment les algues.
Ben, ils sont demandeurs, hein, ils n'ont pas l'iode à portée de main.
Alors il faut décrire comment vous présentez vos algues. Elles sont toutes dans des sachets en plastique qui font combien de
alors,
grammes
les algues,
à peu près?
Les algues sèches sont présentées en sachets sous film alimentaire, spécial alimentaire. Et donc, en sachet de 100 grammes ou en sachet de 50 grammes. Donc ça, c'est pour le particulier, donc pour son utilisation, pour mettre dans les salades, pour mettre dans des préparations. Et sur chaque sachet, au dos, il y a des idées recettes et avec quelles mets, ils vont mieux se marier au niveau du palais. Gustativement, vous allez avoir des saveurs complètement différentes ou opposées. Et toujours, moi, ce que je recherche, c'est toujours cette harmonie du palais avec l'algue et le mets qu'on a l'habitude de manger. En sachant que l'algue est un exhausteur de saveurs qui ne va pas modifier le goût, mais amplifier et sublimer le goût. Comme un bon vin, quand vous avez le retour en bouche, que vous avez tous ces arômes qui explosent au palais, l'algue, elle fait le même effet sur nos aliments. Des aliments tout simples deviennent des choses merveilleuses. Mes produits à moi, mes tartares d'algues, c'est 87% d'algues crues, fraîches, quoi. Ce n'est pas 30% d'algues avec tout ce que vous voulez avec, quoi. C'est ça ma différence. Quoi. Moi, je suis un marin-pêcheur qui transforme ses propres produits, mais en produits comme la nature donne, donc le plus simplement possible.
Et on dit pêcheur aussi, on dit pêcher des algues.
Alors, pour les algues, je suis algoculteur. Guémonier. Je fais les deux métiers, et moi, c'est le métier que faisaient mes parents. Il y a plus d'un demi-siècle, mes parents étaient guémoniers. Après, ici... L'activité des récoltes d'algues, la grosse partie, elle est partie dans le nord Finistère. Les usines du coin ont fermé et on s'est tourné vers la pêche dans les années 60.
Et vous aussi, Scarlett Le Cor, bien avant de vous spécialiser dans l'algue et d'avoir ici ce grand entrepôt où vous vendez vos produits que vous transformez vous-même à Guilvinec, vous pêchiez le poisson.
Je pêche toujours le poisson. C'est toujours dans tous les pots, ça n'est que ma propre production qui est dedans. C'est pour faire rejet zéro en mer, c'est travailler tout ce qui vient sur mon pont et trouver des idées originales et différentes pour proposer en haut de gamme. Et donc, c'est une plus-value, hein, c'est une valeur ajoutée non négligeable de l'ensemble de tout ce qui vient sur le pont.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez ne vivre que du poisson?
Moi, je pourrais vivre que du poisson, mais mon choix a été fait dans le sens où j'avais un bateau qui est petit. Je ne peux pas lutter en hiver. Avant, quand on sortait en mer, avant qu'on ne soit dans la communauté européenne et que ce soit un marché ouvert mondial, hein, on avait le prix flambait, on va dire, sur le poisson, ce qui nous permettait qu'avec 2 ou 3 jours de pêche, de pouvoir quand même avoir un mois, disons, que, sans manger ce qu'on avait gagné l'été précédent. Hein, quand on est rentré qu'on a agrandi l'Europe et qu'on a fait vraiment l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, les cours se sont effondrés. Si on n'a plus de poisson en France, si les marins ne sont pas en mer parce qu'il y a du mauvais temps, le poisson, il vient du monde entier. Hein, le plus grand port de France aujourd'hui, c'est Rungis, hein, c'est pas ailleurs. Hein. Donc, automatiquement, il n'y a plus ce prix qui flambe à certains moments. Ça vaut plus le coup, quoi. Il n'y a plus cette plus-value. Et c'est pour ça que je me suis mise aux Alpes pour avoir une activité en hiver.
Donc, non contente d'avoir été l'une des premières femmes, si ce n'est la première femme marin-pêcheur, Scarlett Le Cor, vous avez été la première à transformer vraiment les algues, en tout cas à en faire un produit comme aujourd'hui.
Pour moi, c'était même presque une évidence. Bon, aimant la cuisine, ayant un père en même temps qui non seulement qui était marin, mais aussi qui était marin, guémonier, mais surtout aussi cuisinier, donc aimant bien manger, c'était presque automatique de trouver des idées. Et vous savez, quand on aime bien manger, ça nous fait aussi avoir plein d'idées. Voilà, c'est ça le truc. Hein, donc, avec tout ça, ben, on fait des produits qui sont consommés régulièrement. Vous voyez, là, je pars avec plein la voiture et je vais revenir avec rien, quoi. Tout sera vendu. Et pourtant, c'est à Clermont-Ferrand, dans les terres.
Donc, il n'est pas, c'est pas impensif que de dire que l'algue, c'est l'or brun. Et c'est peut-être l'avenir aussi de la pêche.
Alors, je ne sais pas si les algues sont le pendant et l'avenir de la pêche. Ce qui est sûr, c'est que la filière algue, aujourd'hui déjà, par son volume qui est travaillé, il faut quand même pas oublier que le Finistère place la France au quatrième rang mondial en production de combu pour faire les alginates.
Hein? C'est-à-dire, oula, j'ai pas compris.
Alors, les algues, le combu, c'est une algue qui est ramassée par les goémoniers, les gros bateaux qui travaillent industriellement l'algue, qui donc est transformée et qui aujourd'hui, vous consommez tous 1,5 kg d'algues sans le savoir dans l'alimentation que vous achetez tous les jours.
Dans quoi, par exemple?
Ben, dans le saucisson. Les algues, c'est ce qui a remplacé les os des animaux quand il y a eu le problème des maladies. Hein? Et donc aujourd'hui, les consommateurs, ils mangent 1,5 kg d'algues. Alors ça a doublé avec l'histoire justement des os des animaux qu'on ne pouvait plus utiliser. Parce que ce qu'on mange toujours en légumes et comme je mange, ça reste toujours de l'ordre confidentiel, je dirais. Hein? Mais bien qu'on soit complètement dans quelque chose qui est en train d'évoluer à vitesse grand V, les gens font beaucoup plus attention à ce qu'il y a dans leur assiette. Et comme ils font attention à tout ce qu'ils mangent, l'algue, pour eux, est quelque chose de synonyme de bien-être, de confort et de bon. Voilà, donc c'est tout ça qui joue en même temps.
Bon, on sent en tout cas que vous ne tenez pas en place, donc on va vous laisser terminer vos cartons. Il y en a encore beaucoup à faire.
Ben là, j'arrive au bout, mais c'est surtout que j'ai peur d'oublier des choses. Enfin, tous les produits à moi. Hein. Donc, des algues fraîches qu'on est en train de mettre en sachet, qu'il faut que je tire à la machine parce qu'il me manque des étiquettes, donc il faut qu'on fasse des nouveaux sachets. Des algues, attendez, cela, il faut que je les ramasse de là, attendez, j'ai pas mis là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 5 comme ça, avec aussi ça. Si j'avais mis au fond, je sais plus que. Non, c'est les infusions que j'ai mis. Voilà, cela, je mets là aussi. Je vais mettre un autre carton pour mettre tout ça, voilà. Ceci, bon, ici, on stoppe. Je les ai mis déjà sur le temps.
Olivier Lenezette, le public de Scarlett Le Corps, c'est l'aristocratie des consommateurs de poissons. La pêche durable, c'est bien, mais c'est aussi un choix de consommateur.
Oui, c'est d'abord et avant tout un choix de consommateur. Et sur les algues, entre autres, comme l'a dit d'ailleurs Scarlett, en Bretagne, on est la première production de France, mais la première au niveau européen. Et c'est vrai que c'est près de 100 000 tonnes par an qui sont exploités soit par des algues, des professionnels qui font des algues de rive le long du littoral, ou sur la pêche embarquée.
Mais ne serait-ce que en parlant de poissons, quand je parle de pêche durable, les poissons qui bénéficient. Alors maintenant, il y a plein de labels qui se sont créés. Puis c'est assez compliqué en fait de dire qui a créé le label, quel est le cahier des charges, qui a mis en place le cahier des charges. Souvent, ce sont les producteurs eux-mêmes, donc c'est un peu compliqué. Et puis qui vérifie tout ça. Mais tout ça, ça a un coût, et le coût, il est répercuté sur le poisson.
Oui, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la filière a créé une marque qui s'appelle Pavillon France. Voilà. Et donc, ça permet d'identifier le poisson pêché par des navires battant pavillon français, parce que le poisson n'est pas pêché seulement que dans nos eaux territoriales ou devant chez nous, donc il est pêché aussi ailleurs. Et donc, il est important de pouvoir l'identifier en tant que tel. Et justement, nous avons mis en place avec France Filière Pêche une marque qui s'appelle Pavillon France.
Mais ça apporte quoi sur la qualité? Parce que si vous dites que ça peut être des bateaux qui battent pavillon français, mais ça peut être... Oui, quelle est la garantie qualité?
La garantie qualité, c'est que déjà, tout poisson qui est estampillé pavillon France, ou d'ailleurs très localement aussi sur du poisson pêché par des petits navires, comme il y a aussi, il y avait Bretagne Qualité Mer, il y avait aussi sur le bar, il y avait aussi l'identification de produits. Il est obligatoirement passé par la criée, et donc là, il y a un contrôle effectué pour que le produit soit en extra sur les étals après.
Donc ça veut dire que c'est l'avenir de la pêche. C'est comme ça que les pêcheurs ont trouvé à rebondir après des crises, des tempêtes successives.
Il y a eu le changement comportemental de la filière, des producteurs, mais aussi des poissonniers, des marieurs. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la filière et les producteurs, derrière, il y a aussi des poissonniers, des marieurs qui travaillent ce poisson, hein, qui soit le mettent en filet, soit le vendent entier, mais qui le valorisent. Et on voit bien aujourd'hui que le poisson pêché par les navires français ou en Europe est valorisé au mieux de ce qu'il peut être, même s'il reste encore des je pense à améliorer encore sur quelques espèces, mais Je suis persuadé que ces valorisations ont permis au moins sur les nerfs actuels. Et c'est pour ça que mes craintes aujourd'hui sont justement les problématiques de renouvellement de la flotte, non pas d'augmenter le volume de la flotte, mais déjà de renouveler la flotte actuelle pour qu'on puisse encore évoluer dans la qualité des produits et dans l'exploitation, la sécurité et le confort des marins.
Renouveler la flotte, ça veut dire racheter forcément des gros bateaux ?
Non, c'est renouveler la flotte, c'est tous les navires, qu'ils soient des plus petits navires jusqu'aux plus gros. Il faut qu'on ait des navires récents. Faut savoir qu'un navire de pêche aujourd'hui, c'est un avion de chasse. Ils ont de l'informatique sur certains navires, qui n'existe d'ailleurs pas dans d'autres métiers. Ils ont aussi la possibilité demain avec des navires neufs, même si c'est compliqué, parce que derrière, faut pas oublier qu'il faut avoir le permis de mise en exploitation. Il faut toutes sortes d'outils, il faut les quotas, mais il faut aussi les licences, mais il faut aussi que financièrement, les banques et les entreprises soutiennent, et il faut aussi que les professionnels aient envie. Alors aujourd'hui, je dirais que globalement, il y a plusieurs dizaines de demandes en Bretagne de navires neufs. Il y a 15 jours à Lorient, il y a eu un bateau neuf de lancé, il y en aura d'autres à venir. Au Pays Bigoudin et dans le Finistère, il y a des demandes de bateaux neufs et beaucoup de jeunes sont en train de faire des bateaux neufs, et c'est très bien.
Olivier Lenezet, pour conclure, parce qu'on ne l'a pas du tout évoqué, le Brexit et les conséquences sur les pêcheurs bretons, les côtes britanniques ou du Royaume-Uni ne sont pas si loin. Finalement, quelles conséquences là pour l'instant? Est-ce que déjà, d'ores et déjà, vous voyez des conséquences sur la pêche française?
Ben écoutez, les conséquences pour l'instant, on ne les voit pas parce que le Royaume-Uni n'a pas encore déclenché, je dirais, l'article qui va permettre de commencer à discuter sur la sortie du Royaume-Uni. Par contre, ce que l'on sait, c'est que la France, et entre autres la Bretagne, c'est 50% de la flotte française qui navigue dans les eaux britanniques. Donc il y a le droit d'accès à ces eaux qui va être... mais la France a le droit d'avoir... Enfin, ces droits d'accès...
peuvent être mis en cause ?
Ils ne seront pas remis en cause par le Royaume-Uni parce qu'on a des droits historiques dans leurs eaux. Donc ça, et la France est un des seuls pays en Europe à les avoir. Par contre, là où il peut y avoir des problématiques, c'est sur justement l'exploitation dans leurs eaux, des ressources halieutiques, mais surtout, et avant tout, la vraie problématique, c'est des contraintes environnementales qui seraient imposées par le Royaume-Uni dans les zones de pêche des navires français.
Bon, mais finalement, c'est pas si grave puisque les pêcheurs sont de plein de bonne volonté pour se plier aux mesures environnementales. Vous nous avez dit ça tout le long de l'émission.
Mais ils sont, faut pas oublier que les pêcheurs, ce sont d'abord et avant tout les sentinelles de la mer. C'est à eux que revient le rôle de protéger la ressource, de la faire fructifier. Et évidemment que nous sommes favorables à un environnement sain de la mer. Et d'ailleurs, nous n'avons pas parlé de la qualité de l'eau. C'est un enjeu majeur, au même titre que s'il y a la raréfaction de quelques ressources, il faut pas oublier que ce n'est pas que à cause de la surpêche, mais souvent aussi à cause du changement climatique.
Merci Olivier Lenezet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, pour être tout à fait exhaustif, et président de l'association Bluefish. Nous mettons quelques liens utiles sur la page de Sur la route sur le site de France Culture, page à laquelle vous pouvez podcaster les épisodes précédents sur le désarmement de l'ETA dans le Pays Basque, sur les héritages en Touraine ou sur les femmes d'agriculteurs en Normandie, les foulards noirs. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et voir nos photos pendant nos déplacements sur Instagram. C'est à mon nom, Julie Gacon. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Braise Diesel pour son accueil. À la technique, c'était Annick Bosseno. La semaine prochaine, nous serons toujours en Bretagne, cette fois pour ouvrir et rédiger un premier cahier de doléances à 3 mois de la présidentielle. Nous serons avec des habitants de la Roche-Derrien, une petite ville d'un millier d'habitants dans les Côtes d'Armor, pour discuter sur le thème « Comment se parler aujourd'hui ?». Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un monde.